Le thème de cette réflexion ce matin, c'est grandir en petitesse, une des attitudes intérieures de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et dans quelques jours avant la fête de Noël, où nous allons contempler le petit enfant Jésus, au fond, ça rejoint, ce sont deux réflexions et contemplations qui se rejoignent. Thérèse de Lisieux a livré au monde, avec des mots de sa culture, le message essentiel de l'Évangile: Dieu est Père, Dieu est amour, et nous sommes ses enfants. Et elle met en pratique ce message central de l'Écriture en se réjouissant de sa petitesse devant Dieu, en s'abandonnant en toute confiance à sa miséricorde infinie. Elle reçoit tout l'amour donné du Père en prenant l'ascenseur de l'amour qui consiste à se laisser porter dans les bras de Jésus. Et la petitesse, l'impuissance, la faiblesse, voilà les moyens pour accéder à la sainteté et à la croissance spirituelle. Ce qui semblait être un obstacle à l'amour ou quelque chose de négatif devient le rendez-vous de l'amour. C'est en devenant de plus en plus petite que Thérèse sera grande. Cette petitesse thérésienne n'est jamais rapetissement de soi, mais bien un chemin de vie par où se manifeste l'infini du désir. Donc tout ça est à la portée de tout le monde. Donc allons plus loin dans cette réflexion sur la petitesse. En femme active et émotive, Thérèse est vraie avec elle-même et elle ne recherche nullement son intérêt personnel. Elle ne se raconte pas d'histoire. Elle est la simulation. Mais elle fait confiance à ses désirs et à ses dons. Son réalisme lui fait désirer la sainteté dans le vrai de la vie, sans se préoccuper de ce qu'on peut bien penser d'elle. Elle veut réaliser ce pour quoi elle est faite, avec toute la puissance de vie qui l'anime. Éprise de beauté et de grandeur, passionnée de lecture et de savoir au début de l'adolescence, elle se sent appelée à une gloire qui n'est pas fictive. Il est vrai qu'en lisant certains récits chevaleresques, dit-elle, je ne sentais pas toujours au premier moment le vrai de la vie. Mais bientôt le bon Dieu me faisait sentir que la vraie gloire est celle qui durera éternellement et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des œuvres éclatantes, mais de se cacher et de pratiquer la vertu en sorte que la main gauche ignore ce que fait la droite. 4 mois avant de mourir, alors qu'elle rédige pour sa prieure Mère Marie de Gonzague ce qui deviendra le manuscrit C, elle prend encore plus conscience de sa petitesse et de son impuissance. Là réside sa grandeur, celle de la vérité dans l'amour. Il n'y a ici aucune fausse humilité, encore moins de l'infantilisme. Elle reconnaît simplement qu'elle a tout reçu de Dieu et que tout lui appartient. Mère bien-aimée, vous n'avez pas craint de me dire un jour que le bon Dieu illuminait mon âme, qu'il me donnait même l'expérience des années. Oh ma mère, je suis trop petite pour avoir de la vanité maintenant. Je suis trop petite encore pour tourner de belles phrases afin de vous faire croire que j'ai beaucoup d'humilité. J'aime mieux convenir tout simplement que le Tout-Puissant a fait de grandes choses en l'âme de l'enfant de sa divine mère. Et la plus grande, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Le désir d'aimer Jésus, la reconnaissance de ses imperfections, l'espérance en la miséricorde divine la pousse à vouloir devenir de plus en plus petite. Ainsi sera-t-elle grande aux yeux de Dieu. Elle voit dans cette attitude la porte étroite par où il faut passer pour plaire au Seigneur et ainsi être sainte. Y a-t-il une âme plus petite, plus impuissante que la mienne? Cependant, à cause même de ma faiblesse, tu t'es plu, Seigneur, à combler mes petits désirs enfantins. La sérénité ne se trouve-t-elle pas dans l'acceptation de notre faiblesse? Nous nous libérons ainsi des attentes et des exigences que nous dressons entre nous comme des murs. Que de gens dans la vie stressante d'aujourd'hui ont de trop grandes attentes envers eux-mêmes. Ils se comparent aux autres, vivent sous pression dans le passé ou l'avenir, se préoccupent de savoir s'ils sont acceptés des autres, alors qu'ils n'acceptent pas leurs limites et leur petitesse en s'en remettant à la miséricorde divine. Tel n'est pas le chemin évangélique de liberté de Jésus et de Thérèse. Et donc on peut faire un rapprochement avec le thème de la justification par la foi dans les lettres de saint Paul. En se faisant petite devant l'amour gratuit de Dieu, Thérèse rejoint un thème si cher à la tradition protestante, d'où sa portée œcuménique, la justification par la foi et par la seule grâce de Dieu. On ne se sauve pas par la force, la santé, les réussites spirituelles, les charismes. Seule la foi au Christ sauve, et elle est un pur don de Dieu. Thérèse, qui a une intelligence intuitive et un grand sens de l'attention, a bien saisi que le Christ s'est fait petit, pauvre, faible, pour nous grandir en son amour, nous enrichir de son dépouillement, nous fortifier de sa victoire. Elle veut suivre le même chemin. Notre libération passe par la conformité au Christ, qui, dans son abaissement, sa kénose, n'a pas retenu le rang qu'il légalait à Dieu, mais s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, s'abaissant jusqu'à mourir sur une croix. Thérèse exprime quotidiennement cet abaissement, cette kénose, abaissement par amour. Qu'on la loue ou qu'on la blâme, elle se connaît assez pour s'accepter elle-même, ce que plusieurs n'arrivent pas à faire, parce qu'ils ont une image idéalisée d'eux-mêmes et qu'ils angoissent à l'idée de ce que les autres peuvent penser d'eux. Elle écrit à Marie Guérin : « Tu te trompes, ma chérie, si tu crois que ta petite Thérèse marche toujours avec ardeur dans le chemin de la vertu. Elle est faible et bien faible tous les jours. Elle en fait une nouvelle expérience. » La vraie force pour Thérèse se trouve justement dans l'acceptation de sa faiblesse, et la vraie grandeur dans la reconnaissance de sa petitesse. À la suite du Christ qui la soutient et la relève, elle trouve sa joie et sa confiance dans cette attitude qui consiste à grandir en petitesse. Ma joie, c'est de rester petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite. Et Jésus me prend par la main. Alors, le comblant de caresses, je lui dis qu'il est tout pour moi. Je redouble de tendresse lorsqu'il se dérobe à ma foi. Thérèse sait par expérience que son désir d'aimer Jésus plus parfaitement va de pair avec son envie d'être de plus en plus petite. C'est donc par souci de vérité sur elle-même qu'elle utilise, surtout au début de sa vie religieuse, des symboles de petitesse et d'enfouissement, comme par exemple la petite balle de l'enfant Jésus, le petit grain de sable, une pauvre petite pâquerette. C'est à cause de sa faiblesse même que Jésus l'a protégée de bien des tentations, par pure gratuité de sa part. Elle écrit qu'avec un tempérament ardent comme le sien, elle aurait pu se perdre, tomber aussi bas que sainte Madeleine, si elle n'avait pas été préservée par la grande miséricorde divine. Elle va encore plus loin dans la reconnaissance. Je sais aussi que Jésus m'a plus remis qu'à sainte Madeleine, puisqu'il m'a remis d'avance, m'empêchant de tomber. Cette perception, c'est bien la compréhension aussi de l'Immaculée Conception. Marie a été, d'une certaine façon, encore plus rachetée que nous, parce qu'elle a été préservée d'avance. Alors, ça peut nous sembler puéril, mais en fait, c'est tout à fait viril, entre guillemets, comme type d'attitude que de chercher à se remettre à Dieu sans cesse, avec simplicité. Les mots « petit » et « petitesse », très fréquents chez Thérèse, en rebutent plus d'un. Faut-il y voir l'influence de sa mère, qui utilisait ces vocables, puis celle de sa sœur Pauline, devenue la prieure Mère Agnès, à qui le manuscrit A est adressé. La sainte conclut en effet ce manuscrit en écrivant « Voilà, ma mère chérie, tout ce que je puis vous dire de la vie de votre petite Thérèse. » Après sa mort, les gens l'adopteront spontanément comme leur petite Thérèse, qui répand sur eux une pluie de roses par des bienfaits, des guérisons, des libérations incalculables. Sa statue la représente habituellement avec les joues et les lèvres rouges, un bouquet de roses entre les mains où repose un crucifix. Bref, une image Saint-Sulpice, il est si facile de déformer l'image des saints. Thérèse ne fait nullement l'apologie de la petitesse et de la faiblesse pour elle-même, ce qui mènerait au mépris de soi et à la résignation. Au contraire, elle montre que la vraie liberté commence là où la miséricorde divine dévoile à notre être profond sa petitesse, sa pauvreté. En nous reconnaissant en vérité tels que nous sommes, avec nos ténèbres, nos faiblesses, la liberté nous conduit sur un chemin de confiance et de lumière, où nous rencontrons la liberté d'un Dieu Père qui nous révèle son amour en son Fils Jésus. Quel héroïsme cela demande de croire que nos efforts ne viennent pas de nous, mais de Dieu. Le véritable effort consiste à ne compter que sur la miséricorde divine qui seule justifie. Notre petitesse et notre faiblesse deviennent les lieux de la communication avec Jésus qui nous instruit de son amour ainsi. Thérèse peut écrire, avec la simplicité qui la caractérise, « Parce que j'étais petite et faible, il s'abaissait vers moi, il m'instruisait en secret des choses de son amour. » Sa confiance en Dieu grandit à mesure qu'elle prend conscience de sa faiblesse, car c'est là qu'il déploie toute sa puissance. Thérèse témoigne qu'il n'y a de grandeur que dans la petitesse, librement assumée dans la lumière de la miséricorde divine. C'est là son secret, si simple en apparence, comme ses photographies. Le médium est aussi le message, disait McLuhan. McLuhan, c'est un Américain qui a beaucoup réfléchi sur les médias. Le médium, au sens du moyen de transmission, moyen de communication, est aussi le message, disait-il. Donc l'importance du moyen employé pour transmettre, quasiment aussi importante que le contenu même du message. Les photos de Thérèse sont authentiques, sans retouche, nous dévoilent un beau visage de jeune femme énergique, empreint d'une grandeur indescriptible qui laisse passer, comme une vibrante icône, le feu qui la consume. Thérèse aimait les images pieuses de son temps qui la nourrissaient, mais elle n'aurait jamais pensé que les clichés de son visage feraient le tour du monde. Elle voulait rester cachée avec son Jésus dont elle contemplait la sainte face. Comme celui de Jésus, je voudrais que mon visage soit vraiment caché, que sur la terre personne ne me reconnaisse. Dieu avait prévu une autre gloire grâce à l'appareil photographique de Céline apporté au Carmel. Son regard perçant ne nous dévisage pas, il envisage avec nous un avenir s'ouvrant sur un chemin de confiance et d'amour. Il y a une telle force dans son visage, une détermination si douce que plusieurs en sont touchés jusqu'au fond de l'âme. C'est le cas de Christine, incarcérée à la prison centrale de Rennes, qui dit « Lorsque j'ai regardé le soir la photo de la petite Thérèse, j'ai vu des lumières sortir de son regard et atteindre mon cœur de pierre. J'ai senti à ce moment une peine, une gêne qui était en moi, quelque chose de lourd qui m'encombrait, remonter de mon cœur et en sortir. La lumière de mon Dieu a transfiguré mon cœur par le regard de ma petite sœur. En un instant, je fus heureuse, libre Surtout, j'ai senti la présence d'un être extraordinaire qui m'aimait et me protégeait et serrait fort le cœur et tout mon être. Dieu était là, il suffisait de lui tendre la main. En ce siècle de l'image, le visage photographié de Thérèse nous révèle le cœur de Dieu. Son visage d'enfant et de jeune femme rayonne de la gloire même du ressuscité. Que ce soit à 8 ans avec sa sœur Céline, à 15 ans avant l'entrée au Carmel, vêtue du vêtement de novice, dans la cour du Carmel, dans le rôle de Jeanne d'Arc, en groupe sur le perron du préau, à la lessive avec la communauté, au pied de la croix du préau avec ses novices, ou morte à l'infirmerie, on peut discerner sur son visage les traits du Dieu amour. Je voulais apporter ce matin la photo du visage mortuaire de Thérèse. Elle est vraiment très belle parce qu'elle a comme un sourire sur le visage. Si vous le trouvez sur Internet, regardez, c'est vraiment très très beau, très très pacifié, très joyeux. Elle a 16 ans lorsque son père est hospitalisé à l'asile du Bon Sauveur de Caen, où il restera 3 ans. Thérèse y voit une identification aux souffrances de Jésus, dont la sainte face est la poignante illustration. Bouleversée, elle encourage Céline à fixer la face de Jésus d'un regard contemplatif, on pourrait dire d'un regard carmélitain. Jésus brûle d'amour pour nous, regarde sa face adorable, regarde ses yeux éteints et baissés, regarde ses plaies, regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime. En paraphrasant cette parole de Thérèse, dont le regard a tant scruté les yeux éteints et baissés de Jésus, nous pouvons dire « Regarde Thérèse dans sa face, là tu verras comme elle nous aime. » Désirant être une sainte, malgré sa petitesse, Thérèse remarque qu'il y a une montagne entre elle, grain de sable obscur, et les saints qui passèrent leur vie à pratiquer d'étonnantes mortifications pour expier leurs péchés. Je suis bien heureuse qu'il y ait plusieurs demeures dans le royaume de Dieu, car s'il n'y avait que celles dont la description et le chemin me semblent incompréhensibles, je ne pourrais pas y entrer. Elle suit la voie que Jésus lui trace, trouvant dans l'Évangile une mère qui l'inspire. Auprès de toi, Marie, j'aime rester petite. Elle avait toujours rêvé d'exprimer dans un chant ce qu'elle pensait de Marie. Elle compose en mai 97 son dernier poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ?». Elle met en pratique ce qu'elle disait le 21 août « Que j'aurais donc bien voulu être prêtre pour prêcher sur la Sainte Vierge. Une seule fois m'aurait suffi pour dire tout ce que je pense à ce sujet. J'aurais d'abord fait comprendre à quel point on connaît peu sa vie. Pour qu'un sermon sur la Sainte Vierge me plaise et me fasse du bien, il faut que je voie sa vie réelle, pas sa vie supposée. Et je suis sûr que sa vie réelle devait être toute simple. On la montre inabordable, il faudrait la montrer imitable, faire ressortir ses vertus, dire qu'elle vivait de la foi comme nous, en donner des preuves par l'Évangile. Vous voyez, ça, elle a vraiment perçu quelque chose de très important là-dessus. À son époque, il y avait une sorte d'hyper-développement de la spiritualité mariale, dans un sens où, effectivement, on montrait en Marie des privilèges particuliers tellement, tellement grands que c'était inabordable. Et de fait, dans le sillage de Thérèse, le pape Paul VI, en 1973, et Jean-Paul II en 87 ont donné deux lettres très fortes sur Marie, notamment Paul VI, où il montre par exemple comment elle est proche de la femme actuelle par le développement d'un certain nombre de vertus qu'elle a eues dans sa vie, etc. C'est donc à partir de l'Évangile que Thérèse décrit ce qu'elle pense de Marie. En méditant ta vie dans le Saint-Évangile, j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant ne m'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant comme moi, ô mère bien-aimée, malgré ma petitesse. Comme toi, je possède en moi le Tout-Puissant. Mais je ne tremble pas en voyant ma faiblesse. Le trésor de la mère appartient à l'enfant. Et je suis ton enfant, ô ma mère chérie. Tes vertus, ton amour ne sont-ils pas à moi? Aussi, lorsqu'en mon cœur descend la blanche hostie, Jésus, ton doux agneau, croit reposer en toi. Pour Thérèse, Marie est plus mère que reine. Elle lui dit naïvement son affection dans une lettre à Céline. « Mais, ma bonne Sainte Vierge, je trouve que je suis plus heureuse que vous, car je vous ai pour mère, et vous, vous n'avez pas de Sainte Vierge à aimer. » Elle aura toujours conscience de la présence maternelle de Marie, malgré sa difficulté à réciter le chapelet. Voilà, pour ceux qui ont du mal à chapelet, il faut lire ça, n'est-ce pas ? « Je ne voudrais pas, cependant, ma mère bien-aimée, que vous croyiez que les prières faites en commun au cœur ou dans les ermitages, je les récite sans dévotion. Au contraire, j'aime beaucoup les prières communes, car Jésus a promis de se trouver au milieu de ceux qui s'assemblent en son nom. Je sens alors que la ferveur de mes sœurs supplée à la mienne. Mais toute seule, j'ai honte de l'avouer, la récitation du chapelet me coûte plus que de mettre un instrument de pénitence. Je sens que je le dis si mal, j'ai beau m'efforcer de méditer les mystères du rosaire, je n'arrive même pas à fixer mon esprit. Longtemps, je me suis désolé de ce manque de dévotion qui m'étonnait, car j'aime tant la Sainte Vierge, qu'il devrait m'être facile de faire en son honneur des prières qui lui sont agréables. Maintenant, je me désole moins. Je pense que la Reine des Cieux étant ma mère, elle doit avoir ma bonne volonté et qu'elle s'en contente. Voilà, donc c'était pas facile pour elle de prier le chapelet. Thérèse n'a jamais oublié le sourire de Marie qui l'a guérie de son étrange maladie à la Pentecôte 1883, alors qu'elle avait 10 ans. Elle a comme perçu un sourire sur le visage d'une statue de Marie qui était devant elle. Et ça l'a guérie. Marie restera la plus tendre des mères, celle qui lui inspire confiance jusqu'à la mort, l'exemple parfait de la petite voix, la voix commune. Je sais qu'à Nazareth, mère pleine de grâce, tu vis très pauvrement, ne voulant rien de plus. Point de ravissement, de miracle, d'extase, n'embellisse ta vie, ô reine des élus. Le nombre des petits est bien grand sur la terre. Ils peuvent sans trembler vers toi lever les yeux. C'est par la voie commune, incomparable mère, qu'il te plaît de marcher pour guider aux cieux, pour les guider aux cieux. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, mère, voici le soir. Je ne crains plus l'éclat de ta gloire suprême. Avec toi j'ai souffert et je veux maintenant chanter sur tes genoux, Marie, pourquoi je t'aime, et redire à jamais que je suis ton enfant. Donc des belles méditations et élan de cœur de Thérèse. Une dernière prière pour obtenir l'humilité, puisque ce thème d'aujourd'hui était sur la petitesse. Ô mon bien-aimé, sous le voile de la blanche hostie, que vous m'apparaissez doux et humble de cœur, pour m'enseigner l'humilité, vous ne pouvez vous abaisser davantage. Aussi je veux, afin de répondre à votre amour, désirer que mes sœurs me mettent toujours à la dernière place et bien me persuader que cette place est la mienne.